André Gardiès, bonjour.
Bonjour.
André Gardiès, je vous reçois aujourd'hui pour l'écriture d'un roman, La baraque du cheval noir, que vous publiez aux éditions La Différence. Alors André Gardiès, n'êtes-vous pas avant tout un homme de l'image et du cinéma, même s'il s'agit aujourd'hui de votre septième roman ?
En grande partie, puisque j'ai, disons, une première partie de mon activité, notamment de mon activité professionnelle, où j'ai commencé par être professeur de lettres, et puis surtout après professeur d'études cinématographiques et audiovisuelles, puisque c'était le titre officiel. Mmh. Et en particulier, j'ai terminé ma carrière à l'université Lumière Lyon 2, après avoir fait pendant pas mal d'années des recherches et des publications spécialisées dans le domaine du cinéma. Mmh.
Mais de l'image au roman, il n'y a pas un si grand écart que ça. Il y a beaucoup d'images dans l'écriture romanesque.
Alors, il y a deux choses, je crois, qui interfèrent. Il y a effectivement des images et il y a tout ce qui concerne la narration. Toute la partie narrative dans le roman, comme dans un film de fiction, il y a cet élément-là. Mais effectivement, il y a des images. Alors, elles ne sont pas de même nature. Mais je crois que j'aime assez bien privilégier chez le lecteur, enfin, ce que j'essaye de lui communiquer, c'est la représentation du décor, du cadre dans lequel se situe l'action.
André Gardiès, votre roman commence ainsi, en voici l'incipit. Peu après le village de Randon, il quitte la route principale pour s'engager sur la petite départementale qui remonte la vallée, encore feuillue en ce début d'automne. Alors ce « il », on l'apprendra beaucoup de pages après, c'est Jacques Torrent. Jacques Torrent fait un retour.
Oui, fait un retour à la baraque du cheval noir, qui est fermé, qui n'est plus loué que un peu l'été et encore pas toujours, et qui est fermé depuis une dizaine d'années, parce que 10 ans auparavant, elle servait à la fois d'auberge et de logement pour le chef cantonnier. C'était ce qu'on appelle les baraques dans cette région. Ce sont ces maisons, j'allais dire, de l'administration, des ponts et chaussées, qui logeaient ces chefs cantonniers. C'est la raison pour laquelle ces baraques sont très souvent extrêmement isolées. Et lui, Jacques Torrent, a besoin de louer une maison isolée. Pour deux raisons. Déjà, deux raisons, j'allais dire, officielles. La première raison, c'est parce qu'il a besoin de se mettre un peu au vert. Il sort d'une période personnelle un peu difficile à Lyon, où il habite normalement. Et puis surtout, il a un livre à terminer. Et donc, il a besoin de cet isolement pour terminer le livre. En réalité, il y a une autre raison. Mais on la prendra un petit peu plus tard.
Absolument. Alors, cette baraque au cheval noir, dans quelle région est-elle installée ?
Alors, la baraque du cheval noir, évidemment, n'existe pas. En revanche, la baraque du cheval mort, elle, existe bien. Et elle est très précisément située sur un plateau qui se trouve entre Châteauneuf de Randon et Arzeng de Randon. Et au sommet d'un col, là, sur ce plateau qui culmine autour de 1400 mètres. Ceux qui connaissent la région reconnaîtront le signal de Randon qui est à côté. En revanche, je n'ai pas cité ces noms-là, je ne les mets pas dans le livre.
Je sauf parle Randon.
De Randon. Oui,
Randon,
mais
c'est tout.
Randon, c'est tout. Mais c'est tout. Randon est associé à Arzeng de Randon, à Châteauneuf de Randon.
C'est ça, c'est vaste.
Bon, ouais. Voilà, donc c'est le pays de Randon, disons. Mais parce que je voulais préserver la part fictionnelle. Je ne voulais pas que le lecteur ait l'impression que l'on allait partir sur, disons, un ouvrage de caractère documentaire où le souci premier serait d'avoir l'exactitude géographique et topographique. Je voulais garder aussi cette part de liberté qui est nécessaire au roman, faire en sorte que lorsque je décris la nature, elle soit assez proche de la réalité, mais en prenant aussi, en mettant en évidence des aspects qui ne sont pas forcément dominants dans la réalité, mais qui sont nécessaires pour la fiction. Voilà pourquoi je n'ai pas toujours utilisé les noms propres, les noms précis, mais un lecteur familier les retrouve.
Alors, dans ce roman, en effet, il est question de nature, il est question d'écriture, il est question d'enquête, nous le verrons plus tard. Il est aussi question de superstition, de croyances populaires. Vous nous dites, par exemple, en tout début, pourquoi ne répondrait-il pas, en parlant de Jacques, à ce qui ressemblait si fort à un appel ? Donc il y a quelque chose de l'ordre de voilà, on se sent appelé. Et un peu plus loin, lorsque Jacques, de sa maison, voit une femme esquisser un signe de croix, Jacques s'interroge. Une crainte superstitieuse ? Une manière de conjurer le sort ? Donc il y a quelque chose dans ce genre, dans un ouvrage sur les talismans et les croyances populaires. Donc lui-même débarque dans un pays qui le surprend par ses traditions, par ses manies religieuses.
Oui, alors, peut-être une précision, c'est que l'action est censée se dérouler, il n'y a pas de date précise, mais il y a environ 30 ou 40 ans, c'est
pas
aujourd'hui.
Oui, c'est très juste, ce n'est pas daté.
Et, c'est volontairement, mais disons que, parce que c'est pas intéressant que ce soit il y a 35 ans ou 36 ans, ça ne change strictement rien. C'est, en fait, une période durant laquelle le développement des technologies dans cette région-là n'est pas, disons, particulièrement développé. On est encore largement à l'ère de la traction animale. Le seul téléphone, il n'y en a évidemment pas dans la baraque du cheval noir. Et le premier téléphone, il faut descendre au village voisin qui est à 8 km. Donc voilà, c'était surtout ça qui comptait.
Absolument.
Et il se trouve que même si aujourd'hui, cette donnée, si vous voulez, cette couche de superstition qui habite encore bon nombre de campagnes, il se trouve qu'il y a 30 ou 40 ans, elle était encore plus marquée. Et pour le roman, c'était très important, puisque dans la baraque du cheval noir se trouve à côté d'une tourbière. Et c'est cette tourbière qui a donné le nom à la baraque du cheval noir. Pourquoi le cheval noir ? Alors que ce dont on parle, c'est un cheval qui était marron, mais on l'a retrouvé, quand on l'a retrouvé mort, il était noir parce qu'il s'était envasé dans la tourbière et qu'il était noir à l'exception de la tête. Voilà. Donc, cette tourbière est une sorte de malédiction qui pèse sur la région et plus particulièrement sur le hameau le plus proche qui est à, je vous répète, à 7 ou 8 kilomètres. Et elle va marquer la population parce que c'est une menace.
Oui, vous dites, l'œil immense et noir de la tourbière pèserait sur eux.
Voilà, je crois que c'est ce que j'ai essayé de bien traduire. Alors, tout simplement parce qu'il y a eu des accidents. Il y a eu l'accident du cheval noir. Alors, je ne l'évoque pas de manière précise dans le livre, mais un des personnages laisse entendre, il ne fait pas bon s'aventurer là-bas parce que si on se trompe, on peut se retrouver facilement pris dans des sortes de sable mouvant, enfin, qui est la vase mouvante. Et puis, il y a une dizaine d'années, il y a eu un homme qu'on a retrouvé mort dans cette tourbière. Donc, elle est marquée du sceau quand même du malheur.
Une mort non expliquée.
Alors, une mort non expliquée, il y a évidemment une enquête de la gendarmerie. Il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour prétendre que c'était un accident, ni que c'était un crime. Donc l'enquête est restée un petit peu en suspens. Et cette personne qui est décédée, c'est l'oncle Paul de Jacques Torrent. Cet oncle que Jacques Torrent aimait énormément. Et donc, 10 ans plus tard, il revient pour essayer de comprendre pourquoi 10 ans, pourquoi n'est-il pas revenu l'année d'après ou 2 ans après. Bah, tout simplement parce que c'était extrêmement lourd d'affronter cette réalité-là. Et c'est simplement, disons, une dizaine d'années plus tard, qu'il se sent prêt à affronter, à affronter cette question et à revenir sur elle.
Alors, on le disait, Jacques Torrent, c'est un écrivain. Et on a cette écriture de ce livre dans votre livre. Vous nous dites, il s'assoit dans le fauteuil, dans les premières pages. Il s'assoit dans le fauteuil qu'il a rapporté de la pièce voisine, glisse une feuille de papier blanc dans le chariot de sa machine, la cale au centre et tape quelques mots. Donc c'est un écrivain, comme vous le disiez, qui ne connaît pas encore l'ordinateur.
Et non. Voilà. Oui, il y a aussi ce détail-là. L'évolution technologique, bon, à ce moment-là, l'ordinateur n'existait pas. Et donc on était un peu comme dans le bon polar classique, on utilise la machine à écrire.
Voilà. Donc là, on a bien sûr l'histoire vue par Jacques Torrent, mais aussi la tenue de ce journal qui, de page en page, s'épaissit. On a de plus en plus l'écriture de ce journal que Jacques tient.
Oui, parce que j'avais envie de ces deux voix dans le livre. J'ai essayé de les faire fonctionner parce qu'elles n'ont pas la même tonalité. Et ça me semblait intéressant d'avoir une sorte de concerto entre la voix du narrateur et cette voix plus intime qui dit « je », qui est celle du personnage. Alors, sur certains points, évidemment, les choses qui sont dites se recoupent un peu, mais j'ose espérer que ça n'est pas perçu par un lecteur comme une redite, c'est simplement comme une confirmation. Il y a des points d'ancrage comme ça, de manière à ce que ce que dit Jacques Torrent, ce qu'il écrit dans son journal, soit une sorte d'authentification de la réalité décrite par le narrateur et réciproquement. Donc il y a une fonction, si vous voulez, de valeur de vérité que j'assigne à cela, mais il y a surtout deux voix assez largement différentes. Et la voix qui dit « je » permet de pénétrer plus aisément dans les sentiments, dans les émotions éprouvées par Jacques Torrent.
Absolument. Même si l'histoire, on la découvre en même temps que Jacques évolue dans ce milieu de villageois, on découvre en même temps que lui, on va découvrir en même temps que lui les ressorts de l'histoire, on va découvrir en même temps que lui la connaissance des personnes qui tiennent le café du coin, de celle qui va faire son ménage, de d'autres personnages. On avance, on n'en sait pas plus que lui. Nous ne sommes pas omniscients par rapport à Jacques.
Oui, alors c'est vrai que là, vous posez bien une des questions, évidemment, à laquelle je me suis affronté. Mais pas simplement d'ailleurs dans ce livre, mais dans d'autres. J'ai de la difficulté à utiliser le point de vue omniscient. Donc de me mettre en position de narrateur qui sait tout, qui va tout vous révéler. Je ne peux pas. Alors, probablement, il peut y avoir diverses raisons, y compris des raisons qu'un psy peut-être pourrait trouver, mais ce n'est pas le lieu ici. Je crois que c'est largement lié à l'influence que j'ai eue de certains auteurs sur qui j'ai travaillé, en particulier sur Alain Robbe-Grillet, le nouveau roman, où précisément le premier refus dans le nouveau roman est ce refus de l'omniscience. L'omniscience qui est quand même l'exemple type, c'est Balzac qui sait tout et qui va tout nous apprendre. Alors, mais qui est encore extrêmement vivace aujourd'hui, c'est une grande part de la littérature qui repose là-dessus. Mais je ne peux pas, je ne l'aime pas, je préfère ces points d'interrogation, avancer un petit peu dans le brouillard et puis voir après comment peu à peu se dissipe le brouillard.
Moi j'y ai vu dans ce parti pris d'écriture l'expérience du cinéaste qui, caméra sur l'épaule, progresse justement en même temps que son héros. Je veux dire, il ne va pas le devancer, mais il va filmer, il va donc écrire ce que Jacques entend, perçoit, analyse, reçoit, etc. J'ai vu plutôt, moi, la patte du cinéaste et du professionnel du cinéma.
Elle y est, probablement, il y a aussi cette raison. Cela étant, au cinéma comme dans le roman, rien n'empêcherait le réalisateur ou l'écrivain de dire, voilà, Jacques Torrent fait ceci, puis se déporter chez Vigouroux, le vieux sabotier, par exemple, pour avoir son point de vue. Ensuite, aller voir Rouveyre, des autres personnages, et savoir ce qu'il trame ou ce qu'il pense. Oui, On aurait pu multiplier les points de vue.
Ah oui, mais
de
justement,
manière...
il aurait fallu avoir plusieurs caméras. Mais là, vous en avez qu'une, celle de Jacques.
Oui, c'est une question de moyens. Alors, c'est une question de moyens.
Celle de Jacques, et on ne suit que le point de vue de Jacques.
Oui, mais ça, c'est délibéré.
Voilà. On le suit même quand il va faire la connaissance de Lucie, qu'on évoquera tout à l'heure. On ne va pas connaître les sentiments de Lucie, on va connaître les sentiments de Jacques vis-à-vis de Lucie.
Voilà.
Lucie, on
Alors,
la découvre avec
de
les yeux de Jacques.
Oui, et ce que j'essaye de faire, bon, quand il en va ainsi, c'est-à-dire je ne prends pas le parti de dire, je suis du point de vue de Jacques Torrent, et je ne peux pas dire, je ne vais pas me déporter en sachant ce que pense Lucie ou Marie-Rose ou un autre personnage.
Absolument.
Je m'y refuse.
Voilà. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est caméra sur l'épaule. Et je vois et je filme de mon point de vue à moi. Je ne vais pas donner la caméra aux autres.
Oui.
Je l'ai vu comme ça.
Oui, mais je crois que ça part d'un autre principe qui me paraît assez cohérent. du moins je l'espère, dans le roman, ça part du principe narratif de base qui est celui d'une enquête. On est dans une enquête, donc on ne connaît pas
Absolument.
Au départ, et on avance avec le personnage pour essayer de se débrouiller, pour essayer de tirer les fils, pour essayer de soulever une pierre à un endroit, d'aller mettre son nez ailleurs, de façon à découvrir peu à peu ce qui se passe et ce qui entoure le personnage. Donc ça, il me semble, c'est cohérent avec le principe de l'enquête.
Absolument cohérent. Un moment musical avec Joli Môme de Léo Ferré qui va nous conduire jusqu'à Lucie.
T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule, Joli Môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, Joli Môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, Joli Môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, Joli Môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, Joli Môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, Joli Môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, Joli Môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, Joli Môme. Ta barrière de froufrou, faut se la faire, mais c'est tout, Joli Môme. Ta violette et le violon, qu'on violente et c'est bon, Joli Môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, Joli Môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. Et qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, Joli Môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, Joli Môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, Joli Môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, Joli Môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, Joli Môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, Joli Môme. T'es qu'une feuille de l'automne, une feuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, Joli Môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue et ma boule, Joli Môme.
André Gardiès, nous sommes toujours en votre compagnie sur FM Plus 91 FM à Montpellier, en compagnie aussi de Jacques Torrent, l'écrivain de votre roman « La baraque du cheval noir » édité à La Différence. Alors André Gardiès, j'ai choisi Léo Ferré et Joli Môme parce que vous-même, vous la citez cette chanson dans votre livre.
C'est effectivement une chanson que chante Lucie, qui est Lucie qui vient faire le ménage à la baraque du cheval noir. Et donc, elle chante Joli Môme. Alors, pourquoi j'ai choisi de lui faire chanter Joli Môme ? J'aurais pu choisir quantité d'autres chansons. Bon, il y a une raison extrêmement précise, comme un petit clin d'œil. C'est pour ça qu'on peut le dire à la radio. Et donc, ce clin d'œil, c'est qu'en fait, la baraque du cheval noir, on a dit... Elle n'existe pas en tant que cheval noir, mais elle existe en tant que baraque du cheval mort. C'est une vraie maison. Et elle a appartenu pendant 2 ou 3 ans à Léo Ferré. Et Léo Ferré y a passé quelques mois. Voilà
effet,
la raison
voilà,
pour laquelle...
Ah ça, j'aime bien le sous-texte, dans voilà. le sens caché des, voilà. des choix de l'écrivain. Ça, c'est très passionnant, passionnant, passionnant. Alors, donc, on a tissé ensemble plusieurs fils hein, de ce roman. Mmh. On a vu que c'était une enquête, on a vu que c'était la place de l'écriture aussi qui était importante avec la tenue du journal de Jacques. Il y a aussi, moi, un aspect de ce roman qui m'a beaucoup intéressée, c'est votre attention à la description de la nature. Certes, on a vu que c'était en Lozère, à la frontière de l'Ardèche, mais vous avez un vocabulaire que vous tenez le plus précis possible. Je vais retrouver mes notes. Vous parlez du lichen vert, vous parlez de cette nature des arbres, très, très présent, de la tourbe. Tout ça façonne ce paysage et les gens.
Oui, et effectivement, il y a une part assez importante qui est consacrée à la description de ces lieux. Et évidemment, la description, on le sait, ce n'est pas la partie la plus, comment dire, excitante d'un roman en général. On a tous l'expérience des pages de Balzac qu'on a sauté allègrement parce qu'on allait à l'action et on sautait les descriptions. Donc là, il y a un risque avec la description. Il y a un risque pour le lecteur, il y a un risque pour l'auteur. Mais pourtant, j'y consacre énormément de pages parce que ça me semble être, j'allais dire, la chair même de cette histoire. Et c'est pour ça que je prends autant de soin de la décrire, de la prendre sous différents aspects et d'être attentif à une forme, j'allais dire, de sensualité de cette nature. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé aussi de chair de l'histoire. Jacques Torrent est aussi presque plus sensible en cette période de sa vie, puisqu'il a besoin de prendre un peu de recul, il est plus sensible à la sensualité de la nature qu'à la sensualité féminine.
Du moins,
jusqu'au moment où il va rencontrer Lucie.
Et c'est vrai que, alors, il y a plusieurs choses, je crois, enfin moi, qui m'ont touchée. Donc, je trouvais astucieux de donner cette musique Écoute Lucie, parce que rien qu'avec ce détail d'écoute musicale, on a une idée de qui est Lucie. On a tout de suite cette jeune femme, enfin cette femme sur sa bicyclette, très légère comme ça. Et je trouve que il suffit de rien dire la chanson de Léo Ferré pour déjà nous placer le personnage.
J'avais pas pensé à cet aspect, mais je suis content qu'il puisse fonctionner de cette manière-là.
Pour moi, il a beaucoup fonctionné.
Oui, parce que pour moi, l'apparition de Lucie, la première vision de Lucie, et la première vision par Jacques Torrent, bien sûr, puisque c'est toujours le point de vue de Jacques Torrent, il est en surplomb d'un lac qui est en dessous, et au bord de ce lac, il y a un chemin qui fait un sentier qui fait le tour du lac. On est dans un paysage complètement déserté, il n'y a personne, il est tout seul. Et puis brusquement, venant de sous les basses branches des sapins, et circulant sur le sentier qui fait le tour du lac, surgit une jeune femme à bicyclette. Comme il a ses lunettes, ses jumelles, il va la regarder de plus près. Mais il y a ce surgissement de cette jeune femme au bord de l'eau. Et pour moi, il me semblait, et pour Jacques Torrent, elle lui fait penser à une naïade, c'est une sorte de Vénus qui sort de l'eau. Et du reste, la deuxième vision confirmera cela, puisqu'il va la retrouver sans savoir qui c'est. Il va la retrouver une deuxième fois, un peu plus tard. Il est en train de chercher des champignons dans la forêt et il entend un bruit qui le surprend. Et il s'avance entre les fûts des sapins et il voit au bord du lac une jeune femme en cuissarde en train de pêcher au lancer. Et c'est la même personne. Donc là, le lien entre Lucie et l'eau est tout à fait important.
Absolument. Et ce que j'entends de ce que vous dites aussi, je trouve, correspond à la façon que vous avez de nous amener petit à petit les personnages. Dans les 40 premières pages du roman, il y a beaucoup de pronoms personnels. On ne sait pas que le « il », par exemple, va correspondre à Jacques. Vous allez nous présenter des personnages dont Jacques ignore les noms. Et peu à peu, ces noms-là vont se déployer, se dévoiler, et du coup aussi leur personnalité. Le cafetier, le sabotier, Lucie, bien sûr. Voilà, donc les personnages se dévoilent peu à peu, Lucie ayant une grosse part dans la fin du roman.
Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, on s'arrêtera là pour dévoiler son rôle.
Exactement.
Mais c'est vrai qu'elle a un rôle extrêmement important. Et alors, je vous ai dit, elle sort de l'eau. C'est sa première caractéristique aux yeux de Jacques Torrent. Il y en a une deuxième. Elle se prénomme Lucie. Et Lucie, étymologiquement, c'est la lumière. Et elle est apparue dans la lumière du lac.
Et grâce à elle aussi, il fera la lumière sur bien des événements. Bien, on ne va pas en dire plus. C'est votre septième roman ?
Mmh. Ou sept et demi.
Sept et demi, c'est-à-dire ?
Oui. Non, je ne voulais pas avoir l'air prétentieux, puisque Fellini a fait un huit et demi.
Ah oui,
donc pour ça, j'en suis qu'à sept et demi. Non, tout simplement parce que j'ai un livre qui s'appelle Le train sous la neige, ouais. Qui était écrit à la troisième personne, et je l'ai réécrit à la première personne. Alors, y a pas, le changement n'est pas simplement de pronom, il y a d'autres changements, et je trouvais, en tous les cas pour l'auteur, une expérience intéressante, le lecteur a lui de dire, et cette nouvelle version, moi je l'aurais appelé volontiers le train sous la neige 2, mais l'éditeur lui préférait changer carrément le nom. Mmh. Donc, j'ai 8 noms, si vous voulez, sur la bibliographie. Mais en réalité, il y en a un, il est dédoublé.
Ouais, c'est ça.
C'est deux versions d'un même roman.
Ah, ouais. Mais il est certain que lorsque... Quel est ce romancier ? Est-ce que c'est Butor qui a utilisé la première fois le « tu » ?
Oui.
Dans le...
Je crois que c'est le « vous » d'ailleurs.
Comment ?
Je crois que c'est le « vous ».
C'est le « vous ».
Oui.
Ben, ça, j'aurais dû réviser avant.
Mais
l'usage des pronoms personnels a induit, c'est vrai, une toute autre perception de l'histoire.
Exactement. Et ça, je voulais mener cette expérience. Par chance, il y a eu deux éditeurs qui ont bien voulu suivre. Donc, et le deuxième s'appelle d'ailleurs « La source du diable ». Et voilà, donc c'est pour ça que je vous dis 7 et demi. Ouais. Mais en fait, donc c'est 7 histoires originales. Voilà.
Bien, André Gardiès, eh bien, écoutez, merci d'être venu jusqu'à nous sur FM+, 91 FM à Montpellier pour nous présenter ce livre publié aux éditions La Différence. Dans cette collection, La Ligne Bleue, qui est une collection destinée aux romans, si j'ai bien lu le site internet de l'éditeur, André Gardiès, La Baraque du Cheval Noir, édition de La Différence, disponible dans toutes les librairies.
Merci.
Au revoir, André Gardiès.
Au revoir.